Bonjour, vous écoutez le 41e épisode de BCBT le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre en harmonie avec le vôtre. Dans cet épisode, je suis extrêmement ravie de recevoir Jennifer Padjemi. Jennifer est journaliste multitalent. Je l'avais croisée une première fois, je crois, à un moment où elle animait une rencontre avec notamment la psychologue Sophie Cheval autour du rapport à l'apparence. On s'est suivis sur les réseaux sociaux, on échangeait un petit peu. J'ai écouté avec bonheur les épisodes de son podcast Miroir Miroir, qui s'est malheureusement arrêté récemment. Et elle m'avait fait le plaisir et l'honneur de m'inviter, donc je suis contente de lui rendre l'appareil. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a motivée. C'est à la fois son intérêt constant pour les questions de l'apparence, la défense de la diversité corporelle, son attention à tout ce qui concerne le rapport au corps. Et puis aussi, ce que j'ai observé, c'est sa capacité à creuser vraiment ces sujets que je constatais dans les questions très pertinentes qu'elle posait à ses invités. Et d'ailleurs, parfois, les questions étaient presque plus intéressantes que les réponses. Donc, dans cet épisode, on parle de la représentation des corps, des réseaux sociaux, de la relation à son propre corps, de la body neutralité, du rapport au sport et plein d'autres choses. Alors, je dois vous dire que cet épisode, il avait été enregistré avant le confinement, puisque ensuite j'ai fait une petite parenthèse, et on peut même un petit peu le dater, puisque on évoque la couverture de Télérama avec Barbara Bush à propos de la grossophobie, et donc c'était en février. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jennifer, je suis vraiment très très heureuse de te recevoir. En fait, c'est un petit peu un échange de bons procédés puisque j'avais participé avec grand plaisir à Miroir Miroir. D'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, alors bonjour Ariane, moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là. Je m'appelle Jennifer Padjemi, je suis journaliste et je m'intéresse particulièrement aux questions de que ce soit la culture, société ou le lifestyle, mais toujours un peu autour des représentations, des phénomènes émergents et de ce que ça dit de nous en tant qu'individus dans une société plus large.
Et notamment, tu t'intéresses beaucoup à l'apparence. Alors aujourd'hui, sur le podcast, on va particulièrement s'intéresser à la question du corps, de la silhouette et de la question de la diversité du corps. Est-ce que tu te souviens d'abord quand est-ce que cette question du corps, de la minceur, des injonctions, tu as commencé à en prendre conscience et quand est-ce que ça a commencé à te préoccuper ? C'était plutôt personnel ou plutôt global ?
Je pense que d'abord c'était personnel parce que comme tout le monde, j'ai vécu l'adolescence où on se pose des questions sur son corps, où on se sent complexé. Parce qu'il y a un peu ce diktat de devoir forcément être mince. Et après, moi, par rapport à mon propre corps et ma propre silhouette, j'ai toujours été, formée, mais avec des... Enfin, j'ai jamais dépassé une certaine taille, sans non plus tomber dans la catégorie très mince. J'ai toujours été plus ou moins standard,
dans la moyenne,
voilà, dans la moyenne de... des corps qu'on peut se représenter quand on parle de standard, avec plus ou moins des yo-yo où parfois je peux grossir, parfois je peux mincir, mais j'ai toujours été un peu entre les deux. Donc moi, ça m'intéressait personnellement et ça me touchait parce qu'il y avait cette histoire de régime qu'on nous impose dès le plus jeune âge, et j'en ai fait partie forcément. De ces personnes qui font des régimes pour perdre quelques kilos avant l'été. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai intégré inconsciemment. Et au fur et à mesure de mon évolution personnelle et ensuite en devenant journaliste, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une injonction qui nous était imposée et que c'était pas juste comme ça, que ça venait de quelque part. Et donc... c'est quand je travaillais à BuzzFeed, je m'occupais de la rubrique lifestyle, et il y a quelque chose qui marchait beaucoup, c'était tout ce qui était lié, on va dire, à l'acceptation de soi. Et ça, c'était quelque chose qui venait beaucoup des États-Unis, de nos collègues américains qui nous disaient « Ah, mais ce papier, il a beaucoup marché, ça, c'est vraiment intéressant. » Et donc, eux, de leur côté, ils ont voulu vraiment insister sur tous ces sujets-là. Donc moi, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'essayer
Travailler là-dessus.
En France aussi. Mmh. Et on voyait que vraiment, ces articles-là fonctionnaient très bien.
Fonctionnent bien. Ouais.
Mmh. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose que vraiment, en fait, les gens aimaient quand on les aidait, en fait, à se décomplexer, à être plus à l'aise dans leur peau, à être plus à l'aise avec leur corps, et qu'en montrant plusieurs types de corps, finalement, il y avait une forme d'acceptation beaucoup plus facile.
Mais il y a quand même une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que à la fois c'est très apprécié, en même temps cette pression à la minceur, elle subsiste quand même, tu es d'accord avec ça ?
Complètement, complètement. Et je pense que l'un des trucs que j'ai réalisé surtout ces dernières années, après avoir eu une forme d'évolution, c'est là en ce moment, je suis plutôt en train de me rétracter sur plein de phénomènes que je trouvais intéressant et que je pensais positif, parce que justement c'était nouveau, parce que il y avait une forme de challenge en fait en termes de médias et de magazines féminins. Mais ces derniers temps, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de marketing autour de ça.
C'est ça, oui. Ouais. Ça pouvait être séduisant, mais est-ce que c'était séduisant, mais c'était du marketing à la base, ou c'était séduisant et ça a été récupéré? Si on pense peut-être au body positive,
oui,
quelque chose comme ça.
Bah, c'est souvent les deux, parce que c'est prouvé que à chaque fois qu'un phénomène émerge des réseaux sociaux, les marques arrivent tout de suite dessus. Et en même temps, le fait que ça émerge sur les réseaux sociaux, c'est déjà du marketing en soi. Donc c'est assez compliqué de savoir qui se mord le premier. Mais à l'origine, en tout cas, c'était intéressant de voir que sur des réseaux sociaux comme Instagram, qui pendant longtemps avait été considéré comme un réseau social très
d'injonction,
voilà, où on voit que des corps parfaits, des beautés irréelles, etc. C'était intéressant de voir justement d'autres types de corps, d'autres types de beauté, d'autres types de personnes, tout simplement. Et c'est vrai que quand on voit le body positive qui à l'origine a été créé, en tout cas le terme de cette manière a été créé par vraiment deux femmes grosses, qui, elle voulait lutter contre le manque de taille dans les magasins, le manque de représentation de corps vraiment gros, avec des bourrelets, etc. C'est vrai que quand on commence à voir des photos et qu'on voit
qu'une fille fait du 48,
c'est ça, ou qu'une fille fait du 40, en fait, elle se penche un peu pour qu'on voit le bourrelet. Bon, à un moment, on se demande où est-ce que le phénomène d'origine est parti, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est... on l'a vu assez rapidement que c'était un peu...
C'est un peu frustrant, du coup.
Ouais, complètement.
Mais justement, si on fait un peu un état des lieux aujourd'hui de où on en est, de ce qui a évolué, ce qui bouge pas, en regardant à la fois un petit peu les réseaux sociaux aussi, mais un peu les différents... Enfin, la mode et les représentations au sens large, c'est-à-dire qu'il y a la mode, les marques de vêtements ou de lingerie, il y a aussi la presse magazine, puis même, les agences de mannequins, les photographes et tout. Comment tu vois la situation et qu'est-ce qui te paraît positif et qu'est-ce qui te paraît vraiment résister ?
Ce qui a changé, quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, ça, on ne va pas le nier. Que ce soit, comme tu disais, les agences de mannequins qui recrutent de plus en plus de corps différents, et notamment des mannequins vraiment gros et pas qui font juste une taille 42.
Ça, c'est une réalité agences, c'est pas que quelques mannequins isolés.
Ça, c'est une vraie réalité. Il y a même des agences qui se sont spécialisées dans entre vraiment grosses guillemets, c'est... les différences, que ce soit même dans les corps, dans les types de beauté,
la couleur de
peau. Donc ça, c'est vraiment des spécificités de certaines agences. Après, de l'autre côté, on a aussi des marques qui continuent, qui ont commencé à proposer des plus grandes tailles, même des marques qui se sont créées spécifiquement sur ce modèle, en disant, nous, on est une marque qui va s'intéresser aux grandes tailles, donc on va jusqu'au 58 adultes sans problème.
Est-ce que, y compris en France ou dans d'autres
pays? Alors, beaucoup aux États-Unis. Je veux dire, c'est... En France, c'est plus compliqué. Mmh. Et il y a aussi cette question de moyens, où même quand elles existent, elles ne sont pas forcément accessibles. C'est pas forcément... dans les rues piétonnes où d'habitude on fait les boutiques, donc ça c'est un problème. Et aussi parfois le versant, c'est que par exemple une marque de lingerie qui va faire tout son marketing autour des nouvelles tailles qu'elle propose, ça a été prouvé par des consommatrices qui rentrent dans le magasin et qui demandent ah mais j'ai vu votre photo, du coup est-ce que vous avez ma taille? Ah non. Pourquoi? Et en fait, ça c'est l'autre problème, c'est on ne sait plus ce qui relève de la com et de ce qui est vraiment...
Ça, c'est complètement contre-performant pour la marque.
Complètement.
Parce que, en plus, maintenant, justement, avec les réseaux sociaux, tout ça peut se savoir et est largement partagé, j'imagine.
Et ça, c'est un vrai problème. Après, je pense aussi que les médias ont fait leur travail, entre guillemets, où ils ont commencé à de plus en plus mettre en avant des parcours différents dans l'expérience corporelle, que ce soit d'être gros ou grosse, qu'on soit une femme ou un homme. Et là, récemment, donc, je vois Télérama qui a fait sa couve sur la grossophobie et qui a mis Barbara Butch. Ce qui... Alors, en fait, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit... J'ai l'impression que ça fait déjà 5 ans qu'on en parle et que ça arrive limite un peu tard. Et en même temps, pour ce que ça représente, Télérama, c'est quand même quelque chose de très institutionnel, CSP+, des personnes qui rejettent complètement toutes ces idées de grossophobie, de différence, etc. Et je me suis dit, c'est quand même un signal fort qui vient, certes, un peu après la guerre, mais qui a le mérite d'exister.
Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que... d'une part, moi, j'ai des fois une impression quand même qu'on a avancé, mais qu'on voit un peu les extrêmes. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des filles très minces et qu'on voit des filles très grosses, et ça, je trouve ça super, mais pas tellement tout l'entre-deux et toute la diversité des corps. Ça, je trouve que ça manque quand même encore.
Ça, c'est vrai, et en même temps, j'ai l'impression que là où ça peut se jouer, c'est peut-être plus dans les séries, à la télé. J'ai l'impression quand même de voir parfois des corps... Enfin, j'arrive à m'identifier avec des femmes qui sont pas forcément minces, qui sont pas non plus grosses, mais qui sont un peu dans ce...
T'as raison, tout ce qui compte, c'est tous les modèles de représentation, quand même.
Et je pense que ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Après, je pense que t'as raison, que la minceur existe... Enfin, l'extrême minceur est encore d'actualité. Mais c'est quand même quelque chose, même qu'on a vu sur les défilés, dans les...
Enfin,
dans l'image, en fait, qu'on veut nous renvoyer, on essaye un peu de montrer des gens qui sont en meilleure santé.
Et alors, moi... Enfin, personnellement, même si je lis pas tellement, j'ai quand même l'impression que les magazines féminins ne bougent pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est leur responsabilité? Est-ce que c'est parce qu'ils sont tenus par les marques?
Je pense que c'est aussi un problème de... Voilà, quand on fait une campagne avec telle ou telle marque qui ne propose littéralement pas de taille au-dessus du 36, on peut pas prendre de mannequin qui pourrait rentrer dans ces tailles-là. Et ça, c'est un vrai problème. Et on l'a vu, par exemple, avec une mannequin qui s'appelle Barbie Ferreira, mais c'était il y a plusieurs années déjà, qui avait posé pour une marque. Et la marque en question n'avait pas sa taille. Donc, en gros, c'est comme si elle venait sur le shooting et en fait, on ne peut pas l'habiller parce qu'il n'y a pas d'habits qui correspondent à sa taille, quoi. Donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Mais j'ai l'impression que, justement, sur tout ce qui est Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux, ou même les petites marques qui se sont créées ces dernières années, j'ai l'impression que, justement, elles voulaient surfer sur le côté « on est body positive », mais qu'elles ne montraient quand même que des femmes au corps standard.
Et puis, alors, il y a une remarque qu'on m'a faite, je ne sais pas, toi, avec ton œil, ce que tu en penses, c'est que... on me disait, mais ok, on voit des filles plus rondes, des filles plus grosses, Mais c'est quand même un peu toujours le même type de corps qui est un corps féminin, avec des formes, avec quand même un peu une taille, etc. Et pas des corps complètement différents.
Complètement, complètement. Il y a en fait cette recherche de la féminité qui est quand même exacerbée, où c'est limite... il faut être voluptueuse. C'est, il faut avoir des formes, une poitrine, des fesses, la taille marquée. Et même Gabrielle Dédier, elle en parlait très bien, où elle disait que, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand on a le corps d'en haut, enfin le buste qui est plus imposant que le bas. Ça, c'est ce qui est le moins recherché, parce que c'est pas du tout considéré comme féminin. Et c'est vrai que...
Petit peu mon cas, c'est en fait ce qu'on appelle un peu dans les critères un petit peu des filles qui s'occupent de vêtements,
le V,
des épaules larges, voilà, et puis le bas plus étroit.
C'est ça, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent, et même dans la manière aussi de représenter, c'est que même si la personne en question sera ronde ou grosse, il y aura quand même une recherche esthétique, un peu de sublimer les bourrelets, de sublimer un peu la photo, pour justement que ce soit considéré comme beau et qu'on nous dise, bah, regardez, on peut être gros et beau, alors que c'est pas vraiment ça, je pense, que les personnes concernées demandent. Après, moi, c'est vrai que vu que je suis pas directement concernée, je mets toujours des pincettes, dans le sens où si une personne concernée estime que c'est nécessaire et que ça peut lui faire du bien de voir même quelqu'un de...
C'est déjà mieux que de voir des filles taille 34, c'est clair. Mais alors, tu parlais effectivement des séries, je crois que... Enfin, ce qu'on a bien compris, c'est qu'il fallait qu'il y ait une plus grande diversité de modèles tous azimuts, et que c'est comme ça que... Enfin, les enfants, les ados, petit à petit, trouveront des matières à s'identifier et pas rechercher un idéal inatteignable. Mais donc, du coup, ça change, et c'est très bien pour les jeunes à venir. Mais du coup, alors, le monde change quand même tout doucement. On dit, il y a des petits pas quand même dans la communication, les marques, etc. Mais je dirais, en attendant, comment on peut essayer de vivre mieux dans ce monde-là? Alors, à la fois, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, j'ai bien aimé une personne que j'ai interviewée il y a quelques jours, qui disait, la diversité, ça ne doit pas être un mot, ça doit s'incarner, et on doit vraiment travailler très concrètement à être dans la diversité. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'on peut faire si, effectivement, on sent qu'on est vraiment différente des modèles, et qu'on, du coup, on a... un regard, des fois, qui peut être très douloureux sur son propre corps. Comment tu crois qu'on peut avancer un petit peu? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
J'ai pas de réponse arrêtée, parce que je pense que tout peut changer d'un jour à l'autre, que parfois on a besoin de certains modèles, le lendemain ces modèles-là ne nous correspondent plus, etc., etc. Mais je pense que l'une des premières choses, c'est d'être extrêmement lucide sur la situation, en se disant que c'est pas parce que il y a des petites avancées que tout est réglé. Et donc, à partir de cette lucidité, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir du recul. Et de se dire que ce qu'on voit, ce qu'on nous véhicule en termes d'image quotidiennement, ce n'est pas forcément la vérité. Et donc, du coup, quand on aura une utilisation des réseaux sociaux ou même... des magazines, il y aura vraiment ce recul en se disant, bon, là, c'est juste un shooting mode, ce n'est pas la réalité. Ouais. Là, c'est juste une page Instagram, ce n'est pas la réalité.
Est-ce que,
forcément,
d'ailleurs, justement, par rapport à, par exemple, Instagram ou d'autres, ou éventuellement d'autres supports, est-ce qu'on peut essayer de se forcer, même si au début, c'est pas facile, à choisir ces modèles autrement, c'est-à-dire se désabonner de comptes un peu trop jolis et parfaits, et trouver un petit peu d'autres modèles qui peut-être petit à petit vont changer un petit peu le regard.
Ça, il faut absolument le faire, et je pense que c'est de plus en plus facile, parce que justement il y a des personnes qui ont une utilisation d'Instagram qui est beaucoup plus saine, que ce soit dans le partage des stories où ils vont partager des choses intéressantes, que ce soit même dans le partage de photos où il n'y aura pas cette idée de j'ai envie de te culpabiliser sur toi, ta vie, et sur qui t'es ou sur ce à quoi tu devrais ressembler. Et je pense que c'est hyper important de suivre ces comptes-là, de suivre des comptes comme les tiens, que ce soit des diététiciens qui ont des approches ou diététiciennes qui ont des approches différentes, des psychologues qui ont peut-être une...
Tout à fait.
Une, et puis, voilà, des conseils un peu plus...
Tout à fait. Et maintenant, il y a des comptes, effectivement, enfin, un peu réconciliation avec le corps, ou plus optimiste, et qui montrent vraiment des images différentes, des partages, ou qui donnent des conseils, effectivement, pour se regarder autrement. Donc, on peut trouver, comme tu dis, là, cette matière-là, elle existe. Est-ce que tu penses, parce que j'ai l'impression moi aussi à te suivre, que la mode c'est un domaine qui t'intéresse, est-ce que le vêtement peut jouer un rôle dans le fait de se regarder aussi un petit peu différemment?
Oui, moi je pense vraiment que la manière dont on se présente et donc se représente au monde et à soi-même, ça peut vraiment nous aider aussi à se sentir mieux dans notre peau. Et même si j'ai conscience de toutes les injonctions qu'il peut y avoir autour, et du maquillage, et des vêtements, et de la mode, etc., il y a vraiment, on peut aussi s'en servir d'une bonne manière, de se dire, moi je me sens bien dans ce pantalon, dans cette robe, dans ce vêtement. Ça peut même être quelque chose de totalement neutre en termes de genre, et pas lié forcément à une féminité exacerbée, mais c'est l'idée de vraiment de se sentir bien à partir du moment où on sort de chez soi. Et donc si c'est mettre du mascara ou mettre des chaussures qu'on apprécie, ça peut vraiment aider, quel que soit son poids. Et ça, c'est vraiment, je pense, essentiel, et on le voit aussi, toutes les blogueuses, les influenceuses... body positive ou grosse, enfin je sais pas forcément comment elle s'appelle, parfois il y en a qui s'appellent body positive ou autrement. Il y a cette idée de moi j'ai la mode ne voulait pas que je porte ça, moi j'ai décidé que ça m'allait bien et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et ça c'est vraiment je pense que c'est on peut s'en servir comme un outil de comme on dit d'empouvoirement ou d'empuissancement.
Et par rapport à ce que tu dis au début de aussi de self-acceptance, en fait se regarder un petit peu un petit peu autrement, c'est-à-dire se trouver jolie parce que effectivement on se dit je me sens bien et du coup je me vois un petit peu autrement. Est-ce que
je voudrais rajouter qu'il faut comme là on le voit beaucoup autour de la body neutralité. Cette question de se dire on n'est pas obligé non plus d'aimer son corps et que tout le monde, quel que soit son poids, quel que soit sa silhouette, son corps, a des jours off, en fait. Enfin, c'est juste normal.
Absolument, mais je crois d'ailleurs, il me semble me rappeler que tu en avais parlé avec Sophie Cheval, qui est une psychologue que j'adore, et effectivement, et c'est aussi une part du travail, c'est d'être... à l'écoute des émotions qu'on ressent des fois quand on se regarde et qui sont pas que toujours des émotions agréables, mais effectivement il peut y avoir des jours avec et des jours sans. Et après il y a un autre aspect, qu'est-ce que tu en penses, qui est aussi, alors même si toi tu avais un podcast qui s'appelle Miroir, qu'est-ce qu'il en est du fait des fois de peut-être se regarder un peu moins et des fois être plus dans le ressenti de son corps, que ce soit bouger, pas forcément faire du sport, mais bouger, faire des massages, faire des choses qui vont être plus du ressenti, moins du regard. Qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est essentiel. Je pense vraiment que ça peut faire que du bien de que ce soit faire du sport parce qu'on estime que ça nous fait du bien corporellement, enfin ou même psychologiquement. Alors moi j'en fais, et j'en fais pour des raisons très basiques de ça me fait du bien pour tout. Enfin, quand je sors d'un cours de yoga Ashtanga, je n'ai plus de jambes et de bras, mais je me sens juste bien et j'ai l'impression de m'être vidée de quelque chose, sans parler de est-ce que ça va me faire mincir ou pas. Ça, je pense que c'est hyper important. Enfin, il y a des personnes qui vont au hammam, qui se font masser, qui marchent, qui font des randonnées. Enfin,
même se faire soi-même du massage, se mettre de la crème.
Et ça, je suis d'accord. Je pense que parfois, on oublie le ressenti, et même par rapport à la nourriture. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé ton approche. C'est que le rapport qu'on a à la nourriture est souvent lié à ce que j'ingurgite, ça va me faire grossir ou maigrir. Et j'aime bien l'idée, j'avais lu ça il y a longtemps, qui disait quand on pense à quelque chose qui va nous faire grossir, c'est comme ça qu'on grossit, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est que du coup, le rapport qu'on a avec la nourriture, dès qu'on fait quelque chose, ce sera lié à notre poids, alors que pas du tout. Et je pense que même supprimer la balance, jeter sa balance, c'est très bien.
Des fois, ça n'est qu'un chiffre. Et des fois, en fait, oui. C'est ça qui est terrible, c'est que on se sent bien, et puis on se pèse, et le chiffre n'est pas ce qu'on attend, et tout à coup, ça pourrit ça. La journée.
Non, mais c'est vraiment psychologique.
Pour revenir à ce que tu disais par contre du sport, j'ai fait un épisode dernièrement sur les filles extrêmement minces. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles ont des copines qui leur disent « Mais pourquoi tu fais du sport ? T'en as pas besoin. Oui. » Sans comprendre que le sport, c'est pas forcément pour perdre du poids, mais c'est pour tout ce bien-être que tu exprimais.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Je le vois quand je vais au sport, parfois. Je vois un certain type de profil où je sens que c'est devenu une drogue liée à la minceur. C'est-à-dire que ces personnes-là ne vont pas forcément au sport parce que ça leur fait du bien. Mais parce qu'elles se, en fait, elles veulent conserver,
maintenir
un état de minceur extrême. Et parfois, c'est vrai que je me pose des questions en me disant quel est l'équilibre à avoir entre faire du sport pour son bien-être et faire du sport pour absolument maintenir un poids.
Exactement, mais pour répondre un peu à ça, c'est un sujet que j'aborde des fois avec des patientes qui effectivement ont une pratique sportive, disons par exemple quotidienne. Et du coup, ce qui est intéressant, si on sent qu'on est dans un extrême comme ça, c'est de regarder un peu sa vie plus globalement et se dire, est-ce que je me prive pas d'autres choses, que ce soit éventuellement un conjoint, des amis, des sorties, d'autres choses, et est-ce que le sport prend pas trop de place en fait?
Oui, parce que c'est pas possible d'aller au sport tous les jours. Ça veut dire un jour il n'y aura pas de resto, un jour il n'y aura pas de cinéma. Un jour, il n'y aura pas autre chose. Et donc, ça fait que si le sport, ça devient que le principal de ces activités, c'est un problème.
Mais, c'est sans doute plus tout à fait une relation normale, bien sûr.
Complètement. Mais c'est vrai, en tout cas, je suis d'accord avec toi qu'il faut vraiment ressentir des choses. Et c'est vrai que justement, quand on est malade, quand on est... et c'était un épisode auquel j'avais pensé à faire, c'était la fonction du corps en tant que... comme un peu notre médecin interne, quoi.
C'est quand même notre
indicateur de santé qui, parfois... en fait, quand on est malade, c'est pas juste parce qu'on a attrapé un rhume et qu'on a pris froid. C'est aussi, parfois, parce que notre corps, il nous dit quelque chose. Il nous dit... Bon, là, il faudrait peut-être que tu te calmes. Ou là, t'as peut-être trop mal mangé.
Mais le corps messager.
Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est... On l'oublie, parfois. Et quand on est obligé, parce qu'on est malade, qu'on s'est fait opérer, etc., d'un coup, on retrouve des sensations en se disant « Ah, j'avais même oublié que je pouvais avoir faim. » Parce que je mange tellement machinalement à des heures très précises que j'avais oublié cette sensation, ou ça m'a fait du bien de me reposer pendant quelques jours, ou enfin, etc., etc. Et du coup, et parfois quand on sort de cet état, des personnes vont me dire « Ah, mais t'as minci !» Comme si c'était un compliment, alors que j'ai juste envie de répondre non, parce que je me suis reposée, que j'ai même pas vraiment fait attention à ce que je mangeais, à ce que je faisais autour de mon corps, mais c'est juste arrivé comme ça. Et
tout à fait. Voilà. Ça, c'est un sujet, d'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus et de comment avancer. C'est un sujet que j'avais évoqué dans mon podcast qui est « Arrêtons de parler du poids ». Il y a cette question du compliment de la minceur, et évidemment, on dit pas « Ah, t'as grossi, oh, t'as grossi », mais...
Dans certaines cultures, on peut le dire aussi.
mais du coup, comment sortir de ça ? Donc, comment arriver à dire aux personnes, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'en parler, quoi.
Bah, il faut vraiment arrêter, et je l'ai fait. J'ai été cette personne en pensant que ça pouvait être un compliment pour une personne qui pouvait mettre des complexes, etc., ou... « Ah, mais t'as minci, t'as bonne mine. » Et je rajoutais toujours « t'as bonne mine ». Et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire « t'as bonne mine ». Parce que je trouve que c'est un compliment qu'on fait pas assez, de dire à une personne... on a souvent tendance à dire « Ah, mais t'as l'air fatiguée ». Voilà, alors que, bon, en général, c'est pas très
peut-être
sympa.
C'est pas la peine de souligner.
mais dire « t'as bonne mine » ou « t'as l'air en forme », c'est je trouve que c'est beaucoup plus synonyme de bonne santé et de bien-être, plutôt que de pointer du doigt le corps de la personne en disant « Ah, mais t'as minci, t'as grossi, t'as ceci, t'as cela. » Et il y a en fait cette idée où c'est comme si on se regardait tout le temps, qu'on regardait le corps des autres pour pouvoir se comparer. Et ça, c'est un problème. Et je pense qu'on l'a tous et toutes fait à la plage. On se dit, ah, mais enfin, je pensais qu'elle était beaucoup plus mince que ça. Ça me rassure de voir
voilà, il y a un côté rassurant ou un côté culpabilisant, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur effectivement le regard sur soi, moins se regarder. Alors peut-être que c'est en passant par là qu'on va peut-être un peu moins attacher de l'importance aux autres aussi.
Non, c'est ça, ouais. Et je pense qu'il faut vraiment recentrer les rapports avec les autres, en tout cas en termes de corps, sur des rapports beaucoup plus sains. C'est de se dire, je vois qu'une... Enfin, si quelqu'un de proche a grossi ou a maigri d'un coup, il faut plutôt se poser la question, est-ce que ça va dans la vie de la personne ? Et pas que ce soit lié, voilà, focalisé sur l'esthétisme, en fait, de se dire « Oh, elle a grossi, c'est... plus rien lui va, c'est moche. » Ou « Oh, elle a trop maigri, plus rien lui va, c'est moche. » Non, c'est plutôt se dire, parce que parfois, ça peut signaler d'autres choses. Oula, d'un coup, en un mois, t'as pris énormément de kilos ou t'as perdu énormément de kilos. En général, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut plutôt essayer de comprendre...
Voilà, si on connaît bien la personne, voir si...
Est-ce que ça va, est-ce que t'as des problèmes, etc. Sans jamais parler du poids et sans jamais en faire comme si c'était un compliment ou, au contraire, une insulte. Parce que même si on entend souvent « Ah, t'as minci comme un compliment », il y a aussi des personnes qui n'hésitent pas à dire « t'as grossi » et je pense qu'ils ne se rendent vraiment pas compte de l'impact que ça peut avoir quand la personne rentre chez elle, et peut-être qu'elle n'avait absolument pas grossi, mais qu'elle avait juste un manteau un peu plus épais que d'habitude, et que là, en fait, elle va psychoter pendant des semaines, qu'elle va rentrer dans un tourbillon de complexes, de faire des régimes, etc. Et ça, je pense que ouais, les gens ne se rendent pas compte vraiment de l'importance des mots.
Absolument, mais c'est ça, être beaucoup plus vigilante sur les mots et être plus dans... considérer l'autre comme une personne globale, effectivement, en disant t'es en forme, lui poser des questions sur comment elle va, mais pas effectivement focaliser sur le corps. Et par contre, comme tu disais, chacun, par contre, on peut être plus dans le ressenti, s'écouter soi et sans essayer toujours de se dire oh, qu'est-ce que t'es belle, et faire de la méthode Coué, quoi.
C'est vrai que ce serait mieux pour tout le monde. Et en plus, moi, à un moment, je disais aux gens, en vrai, je me regarde dans le miroir. Donc, concrètement, je sais aussi si j'ai minci ou grossi. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'une tierce personne pour me le dire. Logiquement.
Absolument.
Si je me douche tous les jours, que je me regarde dans le miroir, et qu'à un moment, je mets mon pantalon, je sais comment ça me va.
Absolument.
Et c'est vrai que le fait qu'une tierce personne le dise, c'est comme si, d'un coup, notre corps ne nous appartenait plus, quoi.
Tout à fait. Mais ça, c'est vraiment... je pense que c'est très, très répandu chez les femmes. C'est vraiment une sorte d'autodiscipline à avoir, de arrêter les mots de la bouche et dire « Non, je n'en parle pas. » Ça n'est pas intéressant et ça peut probablement pas apporter grand-chose de bon.
Oui.
Mais effectivement, et puis faire ce qui est bon pour soi, que ce soit du sport, bien manger, etc., mais sans subir toutes les injonctions qu'on nous donne. Et c'était super, hein. Merci vraiment beaucoup, Jennifer. C'était vraiment intéressant et je pense utile pour les personnes qui écoutent. Merci
beaucoup, Ariane.
J'espère que cette conversation vous a intéressé. Vous pouvez retrouver Jennifer Padjemi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Elle écrit pour divers médias, assez souvent pour le site slate.fr. Et en fait, tout est regroupé sur son site jenniferpadjemi.fr. BCBT, le podcast, est diffusé le premier vendredi de chaque mois sur toutes les plateformes de podcast. Notez-le, commentez-le, partagez-le, faites-le connaître. On me dit qu'il fait du bien et toutes les femmes méritent de se faire du bien. À bientôt !